au plaisir d'insolence.
Une émission de la rédaction de Canal Academy.
L'émission qui prend le temps de parler littérature.
On retrouve Elisabeth Antebi.
Aujourd'hui, Elisabeth Antebi reçoit Max Gallo, qui vient de sortir une somme sur Voltaire et qui va, bien entendu, nous parler de Voltaire. Bonjour Max Gallo.
Bonjour.
Je suis tombée par terre, c'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Vous vous rappelez Gavroche ? Alors, on s'attendrait presque à vous voir parler de Rousseau plutôt, non ? Pourquoi Voltaire ?
Écoutez, curieuse votre question. Je parle de Voltaire, évidemment il y a Rousseau, mais pourquoi vous attendriez-vous à ce que je parle de Rousseau ? C'est étonnant ça. Je veux dire, je suis un auteur qui choisit un sujet, mon sujet ça n'est pas Rousseau, peut-être un jour j'écrirai Rousseau, une vie de Rousseau, car c'est un personnage intéressant, passionnant même, mais ce qui m'a préoccupé c'est Voltaire. Donc,
Quoi de Voltaire ? Puisque vous le décrivez sous un jour qui n'est pas toujours sympathique.
Mais mon propos n'est pas de rendre Voltaire sympathique ou antipathique, car ça c'est évidemment tout à fait secondaire. Ce qui m'intéresse quand j'écris des biographies, celle de Voltaire en particulier, puisque c'est la dernière, c'est d'essayer de comprendre qui est un homme. S'il est sympathique au lecteur, tant mieux pour Voltaire. S'il est antipathique au lecteur, tant pis pour lui. Moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment cette personnalité a fonctionné, j'emploie ce verbe, comment elle s'est constituée avant de fonctionner, sous quelles influences, avec quels objectifs, quel est le sens de son œuvre, comment il s'est engagé. Autrement dit, c'est d'essayer de comprendre un personnage et évidemment, je ne me soucie pas de savoir s'il est antipathique ou sympathique.
Dans votre titre déjà, vous semblez dire que, ce qui est une idée répandue parfois, mais est-ce que c'est bien la vôtre que la plume lui sert d'épée, la plume peut être une épée.
Oui, je crois que peut
changer même la politique.
Je crois que vous avez raison. Là, j'ai choisi en effet comme titre une début de phrase de Voltaire. Moi, j'écris pour agir parce que je crois qu'en effet, c'est un homme qui est dans son siècle, qui a choisi, vous l'avez très bien dit, sa plume comme épée puisqu'il n'avait pas le droit de porter l'épée étant roturier. Et en même temps, le choix de ce titre, moi, j'écris pour agir, c'était aussi pour marquer quel type de biographie c'était. C'est-à-dire une biographie où le centre de la biographie, c'était Voltaire en tant qu'être vivant. Je dirais, ce n'est pas du tout un livre sur les œuvres de Voltaire, ce qu'il a apporté dans le domaine de la tragédie, dans le domaine du roman, dans le domaine de l'essai. Il y a des études d'histoire littéraire remarquables sous la direction de René Pomeau. Il y a une fondation Voltaire en Angleterre, The Voltaire Foundation, qui font des travaux à la fois érudits et centrés sur la biographie, mais sur l'œuvre de Voltaire, son apport, ce n'est pas du tout mon axe, si vous voulez. Je crois que quand on écrit une biographie, alors qu'il y a déjà eu de très nombreuses biographies de Voltaire, à commencer par une biographie classique, érudite, à la fin du XIXe siècle, en 8 volumes, qui a été la base pendant des années de toutes les autres biographies, qui a été rédigée, élaborée par un érudit qui s'appelle Desnoyères, et c'est une biographie qu'on trouve encore difficilement, mais on la trouve. Donc il y a eu énormément de biographies. Donc quand un auteur, moi en l'occurrence, choisit de reprendre comme thème un thème qui a été plusieurs fois abordé, l'essentiel c'est d'essayer d'avoir un angle particulier.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que dans votre livre, on peut être surpris de voir qu'il n'y a aucune bibliographie.
Non, mais ça, vous savez, je suis un universitaire, oui, j'ai tous les galons de l'université, doctorat, etc., agrégation.
Justement.
Et il faut savoir ce qu'on veut faire. Moi, j'ai choisi d'écrire des livres où j'éprouve à la fois le plaisir d'utiliser l'érudition, la mienne et celle des auteurs érudits, et en même temps d'écrire un livre dans lequel mon plaisir d'écrivain s'épanouit. À tort ou à raison, mais il s'épanouit. C'est-à-dire que je ne cherche pas à mettre des notes infrapaginales ou une bibliographie. Ça, je sais le faire, mais je ne le fais pas. Je ne veux pas le faire, ça ne m'intéresse pas, c'est pas l'objet. Et un livre doit être jugé et une œuvre doivent être jugées sur leur projet. Si vous prenez mon livre sur Voltaire et vous le comparez au livre, aux deux gros volumes de René Pommeau et de ses collaborateurs sur Voltaire, vous direz ce livre-là ne vaut rien. Mais ça n'est pas l'objet. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui fait une course à bicyclette d'être en compétition avec une Ferrari. Je ne sais pas qui est la bicyclette ou qui est la Ferrari, mais c'est un point de vue que je trouve totalement ridicule que cette comparaison.
Alors, c'est ce qui est intéressant, on va revenir à Voltaire, mais là je reste sur vous, si j'ose m'exprimer ainsi. Vous vous servez souvent de la biographie comme, si j'ose dire, de carotte de forage pour exprimer un temps. Vous abordez souvent par la biographie les temps et les gens. Et les œuvres. Est-ce que c'est une approche qui permet une exploration plus ciblée, plus précise ?
Écoutez, je ne sais pas. C'est au lecteur de juger. Moi, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que je suis à la fois romancier, historien, et donc au croisement des deux, il y a au fond le genre biographique. Puisque la biographie a cet avantage, à mes yeux en tout cas, d'être de l'histoire incarnée, de l'histoire vécue. C'est-à-dire que quand vous prenez une biographie comme celle de Voltaire, par exemple, ou avant, j'ai écrit une biographie de Louis XIV, les deux dernières en tout cas, quand vous prenez donc une biographie d'un personnage comme Voltaire, qui se trouve placé au centre des débats intellectuels et politiques de son siècle, ce qu'il a choisi d'assumer d'ailleurs, vous voyez en analysant le fonctionnement de cette vie-là, de cet homme-là, voyez en fait tout le siècle remué. Donc c'est plus intéressant pour moi comme romancier et même comme historien, qui connaît la phrase de Marc Bloch, à savoir « l'historien est comme l'ogre de la fable, il aime la chair vive ». Vous voyez, en faisant ce travail d'autopsie ou au contraire de revitalisation de la vie, vous voyez tout le siècle bouger, vous croisez Diderot, d'Alembert, voilà, Émilie du Châtelet, Louis XV, Frédéric II, vous voyez naître le parti philosophique, vous croisez Calas, Labarre, bref, tout le siècle, presque le siècle, puisque Voltaire est mort à 84 ans. Il faut toujours se souvenir, pour mesurer l'intérêt de cette biographie, qu'il est né en 1694, c'est-à-dire 21 ans avant la mort de Louis XIV, qui meurt en 1715. Et il est mort en 1778, donc il a bien connu le siècle de Louis XIV, il a connu évidemment Louis XV, le règne de Louis XV, et il était encore vivant quand en 1774, Louis XVI a succédé à Louis XV. Et il meurt 4 ans après, en 1778, seulement à 10 ans de la Révolution française. Donc c'est quelqu'un dont l'arc de vie surplombe, au fond, toute cette période cruciale, la fin du règne de Louis XIV, Louis XV, et le début du règne de Louis XVI, et les réformes amorcées et jamais conduites jusqu'au bout. Donc on a là une personnalité qui, quand on l'analyse, est en effet le reflet, plus que le reflet, l'incarnation de son siècle. Mais cela vaut pour d'autres biographies, à mon avis. Même on pourrait faire la biographie d'un paysan du XVIIIe siècle, mais on n'a pas de documents. Et évidemment, quand on a un personnage comme Voltaire, il est à la fois dans la vie quotidienne, et en même temps, il est au sommet du pouvoir, et il est donc en relation avec le pouvoir de l'époque, les hommes d'influence, les femmes célèbres, au cœur des polémiques intellectuelles, et comme il s'est engagé, en même temps, très au fait de ce qui se passe dans la machine judiciaire. Voilà. Donc c'est une façon, en effet, de voir comment le siècle est vécu.
Alors, est-ce qu'au cours de cette vie, je le suppose bien entendu, mais enfin ce n'est pas le cas de tous les écrivains. Est-ce que le regard de Voltaire, selon vous, même sa manière d'écrire, même le choix de ses sujets, sa manière, je veux dire par là qu'il a écrit des romans philosophiques, il a écrit des pièces de théâtre, il a écrit des poèmes, il a écrit plusieurs choses. Est-ce que son regard change au fil du temps ? Est-ce que l'évolution entre Louis XIV et la veille de la Révolution, finalement, et les styles littéraires qui se succèdent, parce que, bien évidemment, ça n'est pas des styles qui restent les mêmes. Est-ce que vous en sentez l'influence dans tout ce que vous avez pu relire ou lire de Voltaire ?
En tout cas, c'est une personnalité très contradictoire, et comme nous tous, je dirais, il est à la fois en mouvement perpétuel, car c'est un créateur, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de son siècle, c'est quelqu'un qui pèse sur son siècle, qui en reçoit les influences, c'est quelqu'un qui voyage, il vit en Angleterre, il vit à Berlin, en Suisse aussi, bref, c'est quelqu'un qui est en mouvement tout au long de sa vie, et bien entendu, le Voltaire de 1700 ou de 1710 n'est pas le même que celui de 1778 ou de 1774, 70 ans ou 80 ans plus tard. Mais, et j'ajoute que, comme vous l'avez dit ou suggéré, son écriture change, et même ses centres d'intérêt changent, donc sa situation sociale change, donc il est en mouvement et il faut le suivre, et je crois d'ailleurs que la règle d'une biographie, enfin pour moi, c'est de suivre l'écoulement du temps, c'est-à-dire de faire un récit biographique presque année après année, et non pas de faire, c'est possible, mais non pas de faire une thématique. Par exemple, on pourrait dire Voltaire et la justice, Voltaire et les femmes, Voltaire et la cour. Mais à mon avis, ce découpage par thème ne permet pas de restituer ce mouvement de la vie qui est une réalité chez Voltaire comme chez d'autres. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est déjà lui-même à l'âge de 11 ans. C'est-à-dire que c'est ça sa contradiction. Enfin, c'est une contradiction. En tout cas, il est d'une stabilité dans ses pulsions, en tout cas. Et en même temps, il a cette évolution, ce mouvement. Et il faut essayer de marier les deux, de faire comprendre les deux. Mais le rapport aux mots, en tout cas, sa virtuosité linguistique, sont déjà très perceptible à 10-11 ans, quand il est élève du collège Louis le Grand à Paris, rue Saint-Jacques, et même ses traits de caractère, puisque, si l'on en croit des témoins, les pères jésuites, puisque c'est un collège jésuite, ont dit de lui à l'époque qu'il était obsédé, c'est pas le mot employé, mais enfin qu'il était, oui, je vais l'utiliser, obsédé par la notoriété, par la célébrité, ce qui est vrai. D'autres ont dit, en s'exclamant...
Il aurait été ravi dans notre siècle, alors.
Oui, et d'autres ont dit, alors qu'il était encore précisément cet élève d'une douzaine ou d'une quinzaine d'années, on dit de lui qu'il serait un jour le chef du parti déiste. Donc il y avait bien chez lui, déjà plus qu'en germe, comme une réalité, puisque à l'âge de 14 ans, il fait déjà partie d'une société de libertins, ce qui a un double sens, un sens philosophique et un sens par rapport aux mœurs. Il n'a que 14 ans et il en fait partie, la société du temple. Et il est déjà cette impertinence, ce goût de la provocation, et aussi, ce qui est un trait majeur qu'il ne faut jamais oublier, cette créativité littéraire, cette invention, cette limpidité dans l'écriture, cette capacité de versifier, par exemple, en alexandrin ou en vers de 8 syllabes, ce génie de la langue, incontestablement.
Oui, vous citez quelques poèmes d'amour qu'on découvre, enfin que moi j'ai découvert en tous les cas, où dans l'amour même, il est rapide et...
Ce qui reste de son écriture, moi je relis régulièrement, même maintenant que mon livre est terminé depuis longtemps, mais je relis Candide, par exemple, en permanence, enfin en permanence, un peu chaque jour, le livre est court, donc je ne le lis pas toute l'année. Quand j'ai écrit ma biographie de Louis XIV, j'ai lu Le siècle de Louis XIV, qui est une œuvre majeure chez Voltaire, plus les articles du dictionnaire philosophique, et je suis frappé par la langue de Voltaire, qui est d'une limpidité, d'une clarté, d'une modernité, pas un milligramme de graisse, pas de digression, une efficacité dans le récit, une rapidité, qui fait que vous donnez à lire Candide aujourd'hui à un adolescent, enfin s'il aime la lecture, vous en masquez le titre et il pensera que c'est un livre d'aujourd'hui, que par tellement le souci du suspens, de l'aventure, c'est un roman d'aventure en même temps qu'un roman
fort
philosophique.
Fort insolent d'ailleurs, il correspond
fort
à
insolent.
La permission, oui. D'ailleurs c'était un grand insolent Voltaire.
C'était un grand insolent, prudent mais insolent, ou alors, insolent mais prudent.
Max Gallo, nous allons reprendre dans quelques minutes. Si vous permettez, nous allons interrompre et nous revenons à Voltaire, vu par Max Gallo.
Le graveur Pierre-Yves Trémois, membre de l'Académie des Beaux-Arts, revient pour Canal Académie sur sa rencontre entre le clown blanc Pippo et le réalisateur Federico Fellini. De cette amitié naîtra un livre consacré au clown, illustré par Pierre-Yves Trémois, et incluant un texte du réalisateur italien. Découvrez sans plus tarder ce témoignage unique dans notre émission Carrefour des Arts, une émission en libre téléchargement sur canalacademy.com.
Au plaisir d'insolence, Elisabeth Antebi reçoit toujours Max Gallo dans une émission où on prend le temps de parler littérature. Max Gallo, nous parlions de Voltaire, donc, sur lequel vous venez de sortir un livre somme, mais en même temps un livre extrêmement facile à lire, qui est un petit roman au fond. Vous racontez votre roman de Voltaire, qui n'est pas un Voltaire roman, qui est un Voltaire d'historien, puisque Max Gallo est un historien, bien entendu. Qu'est-ce qui vous a entraîné dans la vie de Voltaire ?
Moi, je n'écris des livres que après une longue maturation où je me suis dit, il y a peut-être 20 ans à peu près, oui, probablement 20 ans, autour des années 1986, donc ça fait 22 ans si je ne m'abuse. Et en 1986, c'était l'anniversaire, le bicentenaire de la Révolution française, et j'ai écrit un livre à ce moment-là, qui lui-même avait ses racines bien avant, sur un petit livre que j'ai intitulé « Que passe la justice du roi ?» et qui était un livre consacré à l'affaire du chevalier de la Barre. Le chevalier de la Barre, c'est un jeune homme d'une vingtaine d'années qui, en 1762, est accusé d'avoir commis des actes impies, ne pas s'être agenouillé au passage d'une procession, avoir, avec son épée, mutilé un crucifix. Toutes choses qui ne sont pas prouvées, hein. Ça se passait à Abbeville, mais en tout cas, c'est les accusations qui lui ont été portées contre lui et contre la petite bande de jeunes nobles, car c'est un jeune noble de la bonne société qui était un peu les jeunes libertins de la ville d'Abbeville. Et à la suite d'un concours malheureux de circonstances et de tensions politiques entre la justice parisienne et la justice d'Abbeville et le procureur d'Abbeville, ils ont été au fond victimes de ces rivalités intérieures à l'appareil judiciaire, je simplifie, et le chevalier de la Barre a été soumis à la torture et décapité. Après qu'on lui eut, oui ou non, on hésite, arraché la langue ou simplement fait le simulacre de la lui arracher, en tout cas, il a été décapité.
Ce qui est une drôle d'idée au nom de Dieu, évidemment.
Et bien sûr, et ses cendres ont été, son corps a été brûlé, ses cendres ont été dispersées. Et on avait trouvé dans la bibliothèque du Chevalier de la Barre un livre de Voltaire, le Dictionnaire philosophique portatif. Et au-delà de l'injustice, enfin du caractère tout à fait scandaleux de cette condamnation à mort, des tortures infligées, car la Barre a été évidemment torturée, la torture était admise, Voltaire a trouvé que c'était là un acte qui déshonorait au fond la société française. Il a appelé les Français un peuple d'arlequins anthropophages. En même temps, il a eu peur.
Une jolie expression, oui.
Il a eu peur. Et il s'est évidemment retiré en Suisse. Il a conseillé à ses amis Diderot d'en faire de même, parce que tout était possible, puisqu'on pouvait guillotiner un jeune noble sans avoir de preuves de ce qu'on lui reprochait. Et en même temps, il se sentait menacé, car il avait déjà connu à deux reprises la Bastille. Et il s'est senti menacé, puisqu'on avait trouvé ce livre, le Dictionnaire philosophique portatif, et on pouvait faire de lui, et certains membres du Parlement de Paris l'ont dit d'ailleurs, on pouvait faire de lui l'inspirateur de ses actes sacrilèges. Et donc je me suis intéressé, en écrivant ce livre en 1986, Que passe la justice du roi, je me suis intéressé à Voltaire et j'ai commencé à le lire, ou à le relire, à lire sa correspondance qui est éditée et qui fait, je crois, 17 volumes de la Pléiade, que je n'ai pas tous lus, mais enfin j'en ai lu plusieurs. Et j'ai donc commencé à rencontrer Voltaire, puis j'ai découvert, que je ne l'avais pas lu, Le siècle de Louis XIV, qui est un livre admirable.
Méconnu, oui.
Méconnu, admirable. Candide, que je connaissais, j'ai lu des pièces de théâtre. Et peu à peu, ce Voltaire a commencé à m'habiter, je le lisais régulièrement. Et il m'a fallu, au fond, une vingtaine d'années pour, non pas que j'ai travaillé pendant 20 ans, mais il m'a fallu une vingtaine d'années pour me décider.
Pour que ça chemine.
Pour que ça devienne un peu une petite obsession. Et en plus, j'ai pensé que Voltaire, et ça c'était le point déclencheur, que Voltaire était notre contemporain nécessaire. Non seulement parce que c'est, au fond, la première figure en France, de l'intellectuel, c'est-à-dire quelqu'un qui a pour métier d'écrire essentiellement, et qui en même temps se mêle des affaires de la cité. Moi, j'écris pour agir. C'est un modèle qui va devenir, pour le meilleur et pour le pire, un modèle français. L'intellectuel, si vous allez en Grande-Bretagne, l'intellectuel, on ne sait pas ce que ça veut dire. Il y a des écrivains, il y a des historiens, il y a des hommes de théâtre, mais il n'y a pas cette entité un peu mystérieuse qui regroupe tout le monde et qui s'appelle le monde intellectuel, les intellectuels, qui est lié à la centralisation à Paris, au phénomène de cour, etc. Et Voltaire est au fond le premier des intellectuels, dans un siècle qui va voir naître l'encyclopédie, la secte des philosophes, le parti philosophique. Et je vais vous faire un petit aparté. Quand Jean-Paul Sartre, à propos de la guerre d'Algérie, a signé le manifeste dit des 121, c'est-à-dire pour l'insoumission, certains sont allés voir le général de Gaulle et ont dit « mais il faudrait sévir contre Jean-Paul Sartre ». Et de Gaulle aurait répondu « on n'arrête pas Voltaire ». Donc vous voyez, la filiation existe. Et en fait, le moment déclencheur, au-delà de cette longue macération dans Voltaire, si j'ose dire, de cette attitude d'intellectuel dans la cité, il y a eu le fait que Voltaire avait écrit en 1741 une pièce qui s'appelait « Mahomet ou les fanatiques ».
Oui, j'allais y venir, mais en effet, c'est
Mahomet
vraiment très...
Oui. Mahomet ou les oui. fanatiques. Cette pièce a été représentée 3 fois. D'abord 2 fois à Lille, 1 fois à Paris. Puis elle a été interdite par le pouvoir royal et par l'Église catholique, car les catholiques se sont bien rendus compte que derrière la critique de Mahomet...
Qui était exotique à l'époque, faut
oui,
le dire.
Hein. C'est vrai, mais voilà, exactement, oui. mais c'était une critique
ça ne l'est plus aujourd'hui,
qui s'en prenait à Mahomet, à l'islam, mais qui en fait visait la religion catholique. Donc après avoir été enthousiaste, à Lille notamment, le clergé a voulu absolument qu'on fasse de représentations. À Paris, les gens se sont quand même, connaissant Voltaire, se sont dressés en disant « il faut supprimer cette pièce ». Or, cette pièce, compte tenu de l'actualité, notre actualité, un metteur en scène a voulu la représenter à Genève, il n'a pas pu le faire. Car la pièce a été, sous les pressions diverses, on imagine lesquelles, elle a été interdite.
Mais à Lyon, je crois.
Elle n'a pas été montée.
Oui.
Et dans un village de l'Ain, dans voilà. une petite ville de l'Ain dont j'oublie le nom d'ailleurs, quand on a appris qu'elle allait être montée, le théâtre a été lapidé, le maire a reçu des menaces, finalement elle a eu lieu. Mais si vous voulez, cette actualité de Voltaire, encore vivant au point de déranger dans notre monde, plus l'actualité de la réflexion sur le fanatisme, sur le fondamentalisme, ont fait que ça m'a déclenché, que j'ai écrit cette biographie de Voltaire. Donc vous voyez, c'est un long travail qui prend une 20aine d'années, où se croisent le plaisir de lire, l'actualité, une réflexion sur ce que c'est que les intellectuels en France, etc.
Alors, il y a le troisième monothéisme qui est plus dérangeant pour Voltaire, mais est-ce que nous n'avons pas un regard extrêmement moderne là-dessus ? Il s'agit évidemment du judaïsme, parce que Voltaire n'était pas tendre. On l'a même accusé un peu a posteriori d'antisémitisme. Enfin, il y a des passages absolument redoutables sur les Juifs.
C'est évident, non, mais il était antisémite.
Est-ce que ça n'était pas anti-religieux de la religion du Dieu unique ?
Oui, bien sûr, mais il n'y a pas que cela. Si on sondait l'histoire de France, et d'autres l'ont fait, ce n'est pas ma spécialité, enfin, je veux dire, cette question-là, mais il est vrai que l'antisémitisme parcourt toute l'histoire de France. Philippe le Bel, Philippe Auguste...
Oui.
L'antijudaïsme,
oui, oui.
exactement, vous avez
oui.
raison. En fait, j'ai péché...
Non, c'est moi, c'est ma faute aussi.
Car je voulais dire précisément que... Vous savez, il y a un péché originel chez l'historien dont il doit absolument se défendre, qui est l'anachronisme. Or, nous sommes tous historiens, des gens qui vivons dans un siècle donné, avec une expérience donnée, et qui donc imaginons le passé en le regardant avec nos lunettes. Or, le rapport au judaïsme était un rapport marqué par l'idée folle, on peut dire aujourd'hui, enfin c'est mon avis, bien que étant catholique, l'idée folle selon laquelle le peuple juif était un peuple déicide.
Déicide.
Déicide, et qu'il fallait donc d'une certaine manière, peut-être pas l'exterminer, mais en tout cas le mettre à part. En plus, il tenait dans la société de l'époque européenne une fonction très particulière,
l'argent,
les prêts
oui.
sur gage, etc. Oui. Donc depuis Philippe le Bel, Saint-Louis, même Saint-Louis, qui parfois les protégeait, d'autres fois les persécutait, le peuple juif, ou les juifs en France et en Europe, ont été considérés comme des boucs émissaires. Quand on partait en croisade au temps de Saint-Bernard, avant d'aller tuer les infidèles en Terre Sainte, ont tué les Juifs dans les villes allemandes, en passant. Donc l'anti-judaïsme était une réalité, et Voltaire n'a absolument pas échappé à ce climat de l'époque.
Il ne faut pas oublier d'ailleurs que toujours, vous le savez mieux que moi, Max Gallo, devant les cathédrales, et y compris Notre-Dame de Paris, et beaucoup de cathédrales, il y a les deux statues de l'Église rayonnante qui tient le royaume des cieux, et de la synagogue aux yeux bandés, dont la couronne a roulé par terre, et c'est à l'entrée même de Notre-Dame.
Bien sûr. Et c'est d'autant plus, si vous voulez, c'est d'autant plus irritant, ou en tout cas, ou scandaleux, même s'il ne faut pas employer ces mots, mais parce qu'on n'a pas à juger avec nos yeux d'aujourd'hui le comportement de Voltaire, mais en tout cas, sachons que Voltaire avait, par rapport au prêt usuraire, une attitude d'un usurier, puisqu'il a bâti sa fortune sur à la fois des positions dans la société, à la cour, qui lui permettaient d'être un intermédiaire et de bénéficier de la possibilité de faire attribuer des marchés à tel ou tel négociant et de toucher ce qu'on appellerait aujourd'hui des pots de vin, ce qui l'a rendu très riche. Il faisait partie d'une petite société où on raflait toutes les mises d'une loterie et où on faisait fortune grâce à cela. Il a été lui-même, alors cette fois-ci, quelqu'un qui spéculait sur le prix du blé, qui achetait du blé en Afrique du Nord, qui le revendait plus cher, évidemment, en France.
Il aurait été heureux aujourd'hui.
Et il était aussi quelqu'un, c'est même l'essentiel de son activité économique, il était quelqu'un qui prêtait à des taux usuraires à ses propres amis. Pas directement, car il avait des prête-noms, c'est-à-dire que, par exemple, il était le financier en fait du duc de Richelieu, son ami, mais en même temps, ce duc de Richelieu ignorait que l'argent que lui prêtait un monsieur X ou un abbé X était l'argent de Voltaire avec ce prête-nom qui prêtait à tel ou tel grand seigneur, donc au duc de Richelieu. Il a même fait fabriquer des montres dans son petit village de Ferney quand il était devenu propriétaire foncier et donc propriétaire aussi des villageois. Il a fabriqué des bas de soie. Et donc, c'est quelqu'un qui, par rapport à la vie économique, à l'usure, n'avait aucun préjugé, qui était, au contraire, tout à fait décidé à conquérir son indépendance. Car ça, c'est un des grands axes de la vie de Voltaire, et qui explique aussi son attitude à l'égard de l'argent, qui comprend très vite, autour des 15 ans, on peut dire, que dans une société inégalitaire, où il est, quel que soit son talent, quelqu'un de, entre guillemets, appartenant à une caste, comme il y a des castes d'intouchables, c'est un roturier, donc on ne se bat pas en duel avec lui, on peut le faire rosser par ses valets quand on est noble.
Il l'a été d'ailleurs.
Je prends un exemple très précis. Le duc de Rohan l'a fait rosser par ses valets alors qu'il voulait se battre avec lui en duel, mais l'autre a dit « je ne me bats pas avec un roturier ». Et tout Paris, le Paris qui accueillait Voltaire parce qu'il était brillant, a ri aux éclats devant la mésaventure qui lui était arrivée. Heureusement, a dit quelqu'un, qu'il y a des poètes qui ont de larges épaules pour recevoir des coups de bâton.
Et pourtant, il était tout frêlo.
Si on voit le portrait de la tour. Donc, si vous voulez, c'est quelqu'un qui a compris qu'il avait absolument la nécessité d'être indépendant, à la fois sur le plan des lieux. Nous verrons comment, au cours de sa vie, il choisit de s'installer...
Oui, vous en parlez beaucoup, ça c'est très intéressant.
Il choisit de s'installer d'abord en Suisse, puis en Suisse il y a quand même des calvinistes qui sont aussi rigoureux et fondamentalistes que les catholiques, donc il vaut mieux être ailleurs. Donc il quitte la Suisse, mais il s'installe à côté, à Ferney, qui s'appelle aujourd'hui Ferney-Voltaire, c'est dans le pays de Gex, pas loin de l'Ain donc, et en même temps il est dans ce lieu-là, près de la Savoie, qui est indépendante, un royaume indépendant, près de la Suisse, et il est en France. Il peut donc, suivant les moments, passer en Suisse facilement, passer en Savoie, ou rester en France, où le fait d'avoir, je l'ai esquissé, le fait d'avoir acheté ce territoire de Ferney, lui donne en même temps le titre de comte. Donc il a acquis une noblesse du fait d'être propriétaire, et en même temps, les villageois qui vont avec, les terres qui vont avec.
Sur le tard.
Il est devenu riche, admiré, et son apothéose, ce sera son retour à Paris au début du mois de février 1778, c'est-à-dire il meurt en mai, donc quelques mois avant sa mort, où il est accueilli comme un personnage déjà...
au Panthéon.
Déjà au Panthéon, qui n'a pas cette fonction à l'époque, qui n'est qu'une église, l'église Sainte-Geneviève.
Bien entendu. Bon, Max Gallo, nous allons reprendre dans quelques minutes l'émission Au plaisir d'insolence. À tout de suite.
Saviez-vous que le peintre Claude Monet fut un grand collectionneur d'estampes japonaises ? Cette collection dévoile les liens que l'on peut établir entre l'univers des estampes et celui de Claude Monet. Exemple avec sa toile emblématique, impression au soleil levant, composée de ponts japonais, de glycines et de nymphéas. Le peintre était un paysagiste passionné par les jardins d'eau exotiques, japonisants et propices à la rêverie. Cette émission Carrefour des Arts est en libre écoute et libre téléchargement sur canalacademy.com.
Max Gallo, nous nous retrouvons pour Au plaisir d'insolence où nous parlons de Voltaire. Et alors, j'aurais aimé quand même faire allusion à la fameuse rivalité dont on nous rebat les oreilles à l'école, en tous les cas, enfin du moins de mon temps, qui était la rivalité des idées, bien entendu, entre Voltaire et Rousseau. Est-ce qu'il y a un choix entre l'idéal et l'idéologie, entre un tas de choses, entre Voltaire et Rousseau?
Oui, on pourrait dire d'une certaine manière, évidemment un peu caricatural, mais si on peut simplifier jusqu'à ce point, ce que je crois qu'il est nécessaire de faire pour comprendre, Voltaire c'est la liberté, Rousseau c'est l'égalité.
Et donc la querelle est toujours très actuelle.
La querelle est réelle, elle est tout à fait réelle. Rousseau c'est l'idée que les hommes sont bons par essence et que la société les a pervertis, mais que l'égalité va les rétablir dans leurs droits et dans leur beauté. Voltaire pense au contraire que les hommes, je cite cette phrase qui est terrible, les hommes sont comme des insectes sur un petit tas de boue et qu'ils s'entre-dévorent. Donc le point de vue de Voltaire est un point de vue pessimiste, mais réaliste.
Mais qu'on peut donc les cultiver et les tirer de là.
Mais qu'on peut évidemment bâtir un système de lois, améliorer les conditions dans lesquelles ils vivent, mais sans se faire d'illusions sur leur bonté originelle. Et ça, c'est son expérience. Quant à la rivalité entre Voltaire et Rousseau, elle est réelle. Rivalité, l'antipathie, je dirais. Oui. Rousseau, au départ de sa vie de jeune auteur, a été un admirateur de Voltaire. Admirateur, il lui a écrit des lettres tout à fait d'admiration pour son écriture. Puis, peu à peu, il a accusé Voltaire d'être cet égoïste, ce personnage au fond privilégié qui pervertissait sa République de Genève, puisque Voltaire est suisse, et tout en, d'ailleurs, conservant, disait Rousseau, de l'admiration pour Voltaire comme écrivain. Et par exemple, quand en 1776, je crois, je ne sais plus qui a décidé à Paris de faire sculpter au terme d'une souscription ouverte auprès de ses amis une statue de Voltaire par le sculpteur Pigalle, Voltaire a aperçu que parmi les donateurs, il y avait Rousseau. Et il a dit, mais je ne veux pas du tout de cet argent. Et finalement, tout le monde a dit, mais écoutez, il veut se racheter. Et donc la violence de Voltaire à l'égard de Rousseau, qui a porté contre lui ses accusations au fond de quelqu'un qui pervertissait la Suisse, a été très très violente. Voltaire pouvait être d'une réelle méchanceté, mettant en cause la vie privée de Rousseau qui, comme vous le savez, avait abandonné ses enfants, traitant...
Alors qu'il avait écrit les mille, oui.
Traitant la compagne de Rousseau, Madame Levasseur, la traitant de sac d'os, de la plan vachine, enfin un personnage, Voltaire, très 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 violent, donc il y a eu effectivement, au-delà de l'opposition réelle entre liberté et égalité, optimisme de la part de Rousseau et réalisme et lucidité de la part de Voltaire, il y a eu une véritable antipathie de Voltaire pour Rousseau.
Il faut dire que ce Rousseau avait du culot. J'ai relu en venant les passages sur Molière, qu'il accuse aussi de pervertir absolument tout le monde, sur La Fontaine, qu'il assassine à moitié, dont il dit que les enfants ne le comprennent pas, comme si Rousseau connaissait les enfants. Donc je comprends un peu aussi Voltaire. Mais alors Voltaire répond une lettre absolument magnifique et fondamentale au fond de cette opposition idéale et idéologique, qui est lorsque Rousseau lui envoie son discours sur l'inégalité, je crois que c'est en 1753 ou par là, c'est au milieu du siècle.
55,
oui. Et Rousseau va jusqu'à dire qu'il faut supprimer les livres, que les livres finalement pervertissent la jeunesse et que la jeunesse ferait mieux d'être un peu comme l'enfant sauvage, élevé comme il peut, et d'ailleurs comme dans nos écoles aujourd'hui ou presque. Donc, si je puis me permettre.
Écoutez, je vais vous lire quelques lignes. Voilà. J'ai reçu, monsieur, votre nouveau livre « Contre le genre humain », c'est Voltaire qui s'adresse à Rousseau. Je vous en remercie. Vous plairez aux hommes à qui vous dites leur vérité, mais vous ne les corrigerez pas. On ne peut peindre avec des couleurs plus fortes les horreurs de la société humaine dont notre ignorance et notre faiblesse se promettent tant de consolation. On n'a jamais employé tant d'esprit à vouloir nous rendre bêtes. Il prend envie de marcher à quatre pattes quand on lit votre ouvrage. Cependant, comme il y a plus de 60 ans que j'en ai perdu l'habitude, je sens malheureusement qu'il m'est impossible de la reprendre et je laisse cette allure naturelle à ceux qui en sont plus dignes que vous et moi. Donc on voit déjà toute l'acuité, l'ironie, l'humour acerbe de Voltaire. Et ensuite, il y a tout un passage dans lequel il dit « Je conviens avec vous que les belles lettres et les sciences ont causé quelquefois beaucoup de mal, etc. » Et je passe pour arriver à la conclusion. « Avouez que Pétrarque et Boccace ne firent pas naître les troubles de l'Italie. Avouez que le badinage de Marot n'a pas produit la Saint-Barthélemy et que la tragédie du Cid ne causa pas les troubles de la Fronde. » Les grands crimes n'ont guère été commis que par de célèbres ignorants. Donc c'est une défense, si vous voulez, de la culture, du livre, et évidemment il renvoie Rousseau, au fond, à son utopie généreuse, qui n'allait pas d'ailleurs, sans s'accompagner chez Rousseau, d'une forme de paranoïa.
Eh bien Max Gallo, merci de cette dernière insolence sur Rousseau. Donc c'était...
Non mais vous savez, vous connaissez le proverbe que... On peut être paranoïaque et avoir des ennemis. Voltaire avait des ennemis, Rousseau avait des ennemis, mais il était quand même tendanciellement paranoïaque.
C'était au plaisir d'insolence, l'émission qui prend le temps de parler littérature et vous la montrer, avec Max Gallo, qui vient de sortir un Voltaire que je vous conseille de lire. À très bientôt et merci.